Lecteur ou auditeur, toujours prêt à brailler contre les fausses chansons et les faux de la chanson, tirez deux sacs de vos fouilles et raquez au disquaire. C'est du Boris Vian dans le texte, un article qu'il a écrit pour Le Canard Enchaîné en 1958. Et je continue la lecture. Gainsbourg apporte tout en faisant semblant de n'apporter rien, d'où la portée historique de l'événement. L'anti-chanteur est né. La chanson avec Serge entre dans un autre siècle, je le crois avec conviction. Fin de citation. Depuis la rentrée, Pop & Co tourne autour de Gainsbourg, avec une émission dédiée au slow où il fut question de « Je t'aime, moi non plus », avec un épisode consacré à Jane Birkin. Alors voilà, il y a 30 ans, on apprenait la mort de Gainsbourg, c'était le 2 mars 1991. Et Gainsbourg a détonné dès ses débuts, par ses textes, sa raideur sur scène, on le disait agressif. En tout cas, subversif à coup sûr, et avec le temps qui passe, il en a même fait un show du, voire des buzz. Ce matin, Pop & Co est Serge Gainsbourg, depuis ses débuts en 1958, jusqu'à l'album Melody Nelson en 1971. Gainsbourg, point barre, bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Par quels sons commencer ? Par ça.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous.
Non. Par ça.
Je t'aime. Je t'aime.
Non plus. Plutôt par ça.
Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Parce que c'était le générique de Soyez les Bienvenus, émission de la radiodiffusion française. Et ce jour-là. Attendez, c'était quel jour ? Le 10 juillet 1959, et l'intervieweuse s'appelle Juliette Gréco.
Serge Gainsbourg, vous êtes un personnage un peu mystérieux, et sur scène, vous n'êtes pas spécialement souriant et gracieux. Je ne vous en fais aucun reproche. Je comprends parfaitement votre timidité qui ressemble fortement à de l'agressivité. Vous êtes agressif ?
Oui, un peu.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Faut pas rire. Il faut me dire.
Admettons que ce soit une couverture.
Bon. Qui êtes-vous ?
Moi ?
Oui. À vos yeux.
Pour l'instant, pas grand-chose. À mes yeux, pas grand-chose encore.
Vous êtes quoi ? Une espérance ?
Oui, une espérance, c'est pas mal.
Et voilà.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
Que se passe-t-il ?
Il se passe que Sébastien Merlet arrive dans Pop & Co. Sébastien Merlet a dirigé et co-écrit une somme qui s'intitule « Le Gainsbook » en studio avec Serge Gainsbourg. Et la discussion commence avec cette chanson, « Le poinçonneur des lilas », premier succès de Gainsbourg.
Succès en tant qu'auteur, hein, parce que lui-même en tant qu'interprète, il n'a pas eu de succès avec cette chanson au-delà de la scène des cabarets. Mais en revanche, à la radio, on n'entendait pas le poinçonneur par Gainsbourg, on entendait le poinçonneur des lilas par les frères Jacques. En ce sens-là, cette chanson a été très 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 importante. C'est grâce à cette chanson-là qu'il a été identifié. Il se sert d'un symbole de la modernité. Le métro, le poinçonneur, c'est des choses techniques. C'est pas des sujets de chansons très habituels à l'époque. Et chez Gainsbourg, la modernité, c'est un truc dont il se sert dès ses débuts. Dans son deuxième album, il y a le claqueur de doigts avec le jukebox. Le poinçon des lilas, le claqueur de doigts, c'est des chansons très obsessionnelles, parfaitement contemporaines. Ce sont des chansons qui parlent vraiment de leur époque.
Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant.
Nous sommes en 1958. La France a une nouvelle république, la cinquième. Les Français ont fait plein de bébés, devenus des adolescents pas encore turbulents. Les Trente Glorieuses s'annoncent, donc il y a un élan, un allant, un optimisme quoi. Et pendant ce temps, Gainsbourg parle de son époque, mais comment? Avec un type qui se tire une balle.
Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Et quand vous aurez écouté ça, filou comme vous êtes, vous viendrez me dire que ce garçon est un sceptique, qu'il a tort de voir les choses en noir, que ce n'est pas constructif. Si, si, vous dites des choses comme ça. Là, je suis à nouveau en train de vous lire l'article de Boris Vian paru dans le Canard enchaîné en 58. Et Vian conclut, je vous répondrai qu'un sceptique est tout de même plus intéressant qu'un bon crétin d'enthousiaste. Lucien Ginsburg, pas encore Serge Gainsbourg, découvre Boris Vian en 1955 sur la scène du cabaret Milord Larsouille, où il se produira lui-même plus tard. Et Ginsburg raconte, j'en ai pris plein la gueule. Vian avait une présence hallucinante, vachement stressé, pernicieux, caustique. Il chantait des trucs terribles, des choses qui m'ont marqué à vie. Moi, j'ai pris la relève. Enfin, je crois. Dans le Gainsbourg, dirigé par Sébastien Merlet, on lit, dans les textes de son album « Chansons possibles et impossibles » enregistré en 1955, Vian esquisse à grands traits et sans le savoir le personnage qu'incarnera Gainsbourg.
Et je vois, dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule, je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Dix ans plus tard, Gainsbourg écrit la chanson « Intoxicated Man », une réponse, un écho à ce morceau de Vian que je viens de vous faire écouter et qui s'intitule « Je bois ». Celle de Gainsbourg commence pareil.
Je bois à trop forte dose. Je vois des éléphants roses, des araignées sur le plastron de mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là, comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.
Pardon ? Oui ? Je suis Rebecca.
C'est Sébastien.
Ok, enchanté.
Ravi, vous êtes déjà en train d'enregistrer ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans ma loge alors ?
Bah on fait ça.
Allez, c'est parti.
On fait comme on a dit en fait.
Parfait, on fait ce qu'on s'est dit.
On s'était donné rendez-vous à la Comédie Française. Sébastien Poudreroux y est sociétaire. Avec un collègue qui s'appelle Stéphane Varupen, ils ont adapté et mis en scène une pièce dédiée au répertoire de Gainsbourg. Les Serges, Gainsbourg, point barre, c'est le titre. Et le travail de Sébastien Poudreroux a d'abord consisté à écouter et visionner beaucoup de documents d'archives.
Quand il chante La Noyée, cette chanson inédite à la télé, en fait, il fait presque une citation de ses paroles. C'est comme s'il disait, nous, dans le théâtre, on appelle ça faire une italienne. C'est-à-dire, on met
aucune intention.
Aucune intention, on met pas le ton, on fait pas d'effort pour mettre le ton. C'est une posture qui me touche énormément. Et donc, il dit juste, tu t'en vas à la dérive, sur la rivière du souvenir. Un peu comme si c'était, bon, oui, un jour j'ai écrit ça, et ça faisait comme ça, et voilà.
Vous ne l'avez encore jamais entendu. Peut-être, vous ne l'entendrez jamais plus. Alors autant en profiter tout de suite, c'est une chanson inédite, elle s'appelle « La Noyée ».
tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir. Et moi courant sur la rive, je te crie de revenir. Mais lentement tu t'éloignes, et dans ma course éperdue, peu à peu je te regagne un peu du terrain perdu.
J'adore ça. En fait, c'est aussi une manière qu'il a de pas vendre ses textes. Mais ça témoigne d'une grande confiance en lui aussi. Après, c'est comme ça que je l'interprète, mais c'est comme s'il disait « Mes textes sont tellement géniaux que j'ai pas besoin de les customiser ou de leur donner... parce qu'ils ont une valeur intrinsèque qui est tellement évidente, et ce en quoi il a pas tort. »
Dans quelle mesure il est inspirant pour un comédien, Gainsbourg ?
C'est l'Eldorado, quand on voit ça. Quand on le voit en interview, une liberté de ton, une liberté d'être qui n'appartient qu'à lui, et un courage, quelque part. On voit ça comme un courage, c'est-à-dire il ose être absolument ce qu'il est, avec ce que ça peut avoir de dérangeant pour les gens. Donc ça, forcément, pour un artiste, ça ne peut qu'être inspirant, parce qu'un artiste, bizarrement, même quand on interprète des rôles, quand on est acteur, le rêve, c'est d'être pleinement soi-même, tout en disant les mots des autres.
Extrait de l'émission Discorama du 13 mars 1966, Serge Gainsbourg est interviewé par Denise Glaser.
Vous avez envie de dire des choses dans un livre, je voudrais savoir quoi.
Oh, des choses sur les femmes, expérience personnelle, idéal personnel.
Si vous parlez d'idéal personnel, c'est donc que vous n'êtes pas tout à fait aussi misogyne que vous l'étiez il y a quelques années.
J'ai jamais été misogyne, j'étais pudique, c'est tout.
Pas très tendre.
Oui, pas très tendre. Si vous voulez qu'avec ma gueule soit tendre, on dira, mais je ne peux pas être tendre, je suis dur. J'ai une gueule dure, je ne peux pas être tendre. Je suis tendre en privé, pas devant les gens.
Est-ce que vous savez que, avec votre visage, comme vous dites, vous avez beaucoup d'admiratrices?
Oui, mais ça je le sais, mais elles ne sont pas idiotes. Elles savent très bien que derrière mes chansons, il y a moi. Les chansons, c'est mon métier, c'est mon uniforme, mais dans le civil, je suis moi-même, je suis autre chose. Puis pourquoi dire il faut être ceci, il faut être souriant, il faut pas être dur, il faut être gentil. Qu'est-ce que c'est que cette notion de rose et gris? On peut être noir, bon Dieu. Au cinéma, il y a des gars formidables qui sont toujours très durs, comme Jack Palance. On adore ces gars-là. Et au musical, ça va pas. On dit, oh putain, ce qui est sinistre, ce gars. Il est dur, il est méchant.
Enfin, moi, je ne sais pas s'il est dur ou s'il est méchant, mais tout à l'heure, je vous ai vu aller mettre votre cravate. Vous avez traversé le studio pour aller la chercher. Et vous marchiez d'un pas dansant, du pas d'un homme qui serait tout à fait heureux de vivre.
Si on veut.
Et donc, ces gens-là, mais comme moi, j'ai fait un spectacle aussi sur Bob Dylan, d'une autre manière, c'est des gens qui font peur, bien sûr, mais qui font aussi énormément envie. Je pense que toute la longévité de leur carrière repose sur le fait qu'on a envie de capter quelque chose de ce mystère. À la fois, il dit qu'il en a rien à foutre, il dit « je veux pas qu'on m'aime, mais je veux quand même ». Ces grands aphorismes-là, ces grandes formules. Mais c'est son grand paradoxe, c'est-à-dire qu'il en a à la fois rien à foutre et en même temps, il en est immensément dépendant du regard des autres. Donc c'est un truc difficilement... C'est un carré dans un rond, quoi.
Honte à toi qui la première m'a appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison.
Cette chanson s'intitule « La nuit d'octobre ». Gainsbourg la publie en 1959 sur son deuxième album. Et depuis le début, il travaille avec un arrangeur, amoureux du jazz comme lui, c'est Alain Goraguer.
Allô ?
Ouais.
Voilà, 1-2, soundcheck.
Ça n'est pas Alain Goraguer, mais Sébastien Merlet, co-auteur du Gainsbourg. Gainsbourg où il est question, entre mille autres choses, de cette chanson, La nuit d'octobre, poème d'Alfred Musset, adressé à George Sand.
C'est le premier scandale de Gainsbourg, je pense, La nuit d'octobre. Elle est un peu particulière dans ce sens-là que Elle fait écho à un goût, je pense, profondément sincère de la part de Gainsbourg pour le mouvement romantique littéraire de la fin du 19e siècle. Paradoxalement, lui, ce qu'il en fait, avec Gorager, ils mettent ça sur un rythme de mambo. Il disait le mambo rajoute en fait un supplément de passion au texte. Mais quand il choisit le mambo, c'est quand même un collage pour l'époque, mais c'est de l'avant-garde. À l'époque, ça choque. Il y a des gens, il y a des journalistes chez lesquels ça passe pas.
Honte à toi, tu fus la mère de mes premières douleurs, et tu fis de ma paupière jaillir la source des pleurs, et tu fis de ma paupière jaillir la source des pleurs. Elle coule, sois-en sûr, et rien ne la tarira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Elle sort d'une blessure qui jamais ne guérira. Mais dans cette source amère, du moins je me laverai, et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré. Et j'y laisserai, j'espère, ton souvenir abhorré.
Et maintenant, le général de Gaulle a une déclaration à vous faire concernant les femmes dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Nous sommes le 15 décembre 1965.
La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Et bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
Eh bien, dites, à cette époque non plus, c'était pas la bamboche. Hein. Et pendant ce temps, Gainsbourg aussi parlait des femmes. Mais il détonne en les encourageant à la bamboche, justement.
L'amour à la papa, dis-moi, 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 ça ne m'intéresse. Reste pas, ça fait déjà des mois, que j'attends autre chose de toi. Ça fait des mois que ça dure, je me perds en conjectures. Que pourrais-je te dire de lire l'amour à la papa? Dis-moi, 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 ça ne m'intéresse. Reste pas, ça fait déjà des mois, que j'attends autre chose de toi. À la gare maritime, tu gagneras mon estime en prenant la galère jusqu'à Cythère. Et là-bas, écris-moi
France Inter.
Dis-moi, dis-moi, si on fait l'amour à la
Rebecca Manzoni,
Papa
Pop & Co.
Et faisons un point route sur le parcours de Serge Gainsbourg depuis ses débuts en 1958 jusqu'à l'année 1964. Le 9 novembre, il est l'invité d'Interactualité.
Une année, une saison, vous étiez orienté vers les textes mis en musique, même les poèmes carrément. Vous avez mis Nerval, Victor Hugo et je ne sais trop qui.
Et Musset. Oui.
Et Musset. L'année d'après, vous étiez un peu orienté vers la cruauté. Et puis alors, maintenant, où en sommes-nous?
Ben, je suis pas déboussolé pour autant, je suis très africanisé. Mais je crois que la musique doit subir les mêmes influences que la peinture, et à un moment, les formes éclatent. Et alors, qu'est-ce qui arrive pour le son? Et ben, il ne reste que les percussions.
Oui.
Au désavantage de l'harmonie.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Couleur,
j'aime ta couleur café.
Percussion a ça de particulier que c'est un disque extrêmement avant-garde. C'est peut-être le premier disque de world music française qui ait jamais été fait. Gainsbourg a fait un collage complètement inouï, quoi, pour l'époque, mais même encore pour aujourd'hui d'ailleurs, qui est d'aller chercher des rythmes sur un disque d'un percussionniste qui s'appelle Babatunde Olatunji, d'origine nigériane, qui a eu un énorme succès avec l'album Drums of Passion aux États-Unis. Il a vendu plus d'un million de disques à l'époque.
Extrait de Drums of Passion, album du Nigérian Babatunde Olatunji, paru en 1960.
Gainsbourg va littéralement décalquer trois accompagnements de l'album de Olatunji pour des morceaux de Gainsbourg percussion. Alors c'est une espèce de hold-up comme ça. Je pense que Gainsbourg a complètement sous-estimé l'impact de ce disque aux États-Unis. Lui pensait probablement reprendre des thèmes ancestraux et complètement traditionnels nigérians sur un disque de référence type Okora par exemple. En fait, c'était un disque qui avait énormément marché aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans les années 90, le Babatunde Olatunji en question va se réveiller et faire un énorme procès à Gainsbourg. Enfin, en l'occurrence, Gainsbourg est déjà mort à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les disques ne circulent pas encore dans les années 60. Et en revanche, dans les années 90, ça se repère tout de suite, quoi. Du moment où les disques de Gainsbourg paraissent aux États-Unis, parce qu'en fait, ils commencent à paraître aux États-Unis après sa mort, au milieu des années 90, c'est à ce moment-là qu'il se fait démasquer en tant que plagiat, puisque en l'occurrence, on peut vraiment parler de plagiat.
Gainsbourg a repris trois thèmes de Olatunde Olatunji pour trois chansons de l'album Gainsbourg Percussion. Je vous ai fait écouter le morceau Akiwowo de Olatunji, et voici New York USA de Gainsbourg.
J'ai vu New York. New York is on. J'ai vu New York. New York is on. J'ai jamais rien vu d'eau. J'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York. New York is on. Empire State Building.
Oh, c'est haut.
Rockefeller Center.
Oh, c'est haut.
International Building.
Oh, c'est haut.
Waldorf Astoria. American Building.
Oh, c'est haut.
Bank of Manhattan.
Oh, c'est haut.
L'album Gainsbourg Percussion, paru en 64, mêle musique nigériane, bossa nova, free jazz, et c'est un bide. Parce que depuis le début des années 60, a débarqué ce gars-là. Vous reconnaissez ou pas? J'ai pas pris la chanson au début, faut dire. C'est Johnny, avec Souvenir, Souvenir. C'est lui et ses copains qui raflent tous les succès à l'époque.
Souvenir, souvenir. Des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir. Comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. On dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains.
Quel a été son rapport au yéyé?
Ça a été une mise en danger immédiate. C'est-à-dire qu'au moment où Johnny débarque avec Souvenir, Souvenir, on est en juin 60, Gainsbourg vient de sortir, mais quelques jours avant, un 45 tours qui est le 45 tours romantique 60. Et évidemment, à cause de Johnny, on n'a jamais entendu parler de ce 45 tours romantique 60. Il n'y a pas eu de passage à la radio. Donc Gainsbourg, il est regardé par la nouvelle génération pas comme un vieux croulant, mais en tout cas, il est associé à une génération suspecte, qui est la génération justement de la rive gauche, qui est la génération d'au-dessus. Donc il n'arrive pas à attraper en route le train des yéyés.
Le train des yéyés, Gainsbourg a eu l'opportunité de le prendre assez rapidement finalement. Comme ce jour du concours de l'Eurovision 1965 où...
Canta France Galles. Poupée de cire, poupée de son.
Paroles et musique et de Serge
dirige
Gainsbourg.
L'orchestre, il maestro pour l'orchestration Alain
et la direction de l'orchestre, voici Alain Goraguer.
Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix.
Représente quoi le fait que Poupée de cire, Poupée de son remporte l'Eurovision en 65? Qu'est-ce que ça représente dans le parcours de Gainsbourg?
Du jour au lendemain, il passe de auteur vaguement maudit à marionnettiste des hit-parades. Il reçoit des commandes instantanément après l'Eurovision. Son carnet de commandes en termes d'auteur-compositeur est complètement saturé. Voilà, il va se mettre à écrire pour Michel Thor, le retour de Brigitte Bardot dans les interprètes de Gainsbourg en 65 est complètement lié à son succès d'auteur. Et puis j'oublie une autre interprète très importante, qui est Pétula Clark. Pétula Clark, on la présente à l'époque comme vendant autant de disques, si ce n'est plus, que les Beatles. C'est incroyable. Rétrospectivement, on a du mal à se le formuler, mais il faut voir qu'à l'époque, Pétula Clark, elle fait carrière à la fois en français et en anglais. Et pour sa partie française, elle doit deux de ses gros gros succès à Gainsbourg, qui sont Lagadou et Les Incorruptibles.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans Lagadou. Les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie.
Et puis, Brigitte Bardot entre dans la vie et dans le répertoire de Serge Gainsbourg.
Toc, 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 tac, tac. Voilà, ça va le faire, trop bien.
Ça, c'est Pascal Vestrelin, directeur technique adjoint de France Inter, qui, en quelques tac-tac, m'installe une appli en studio pour que je puisse voir et converser avec Francis Dariz-Curen, dit Dariz. Dariz a 83 ans, il donne des cours de basse sur YouTube. Entre 1966 et 1972, il fut l'un des bassistes de Gainsbourg.
Voilà, et je vais vous mettre en plein écran. On n'est pas beau là ?
Ah, on est bien. Serge Gainsbourg avait besoin d'un arrangeur, d'un orchestrateur. J'aimerais que vous m'expliquiez ça.
Il y a des compositeurs, des créatifs, qui n'ont besoin de personne. Quincy Jones, Michel Colombier, Michel Legrand. Ils sont compositeurs de mélodies, ils font des paroles, ils font les orchestrations, ils font les mixages, ils dirigent l'orchestre, ils font tout. Ce sont des gens universels. Des gens comme Gainsbourg ont besoin de Michel Colombier ou de Jean-Claude Vanier ou autre, parce que Gainsbourg est un créatif de mélodies, de chansons, de paroles, d'histoires et même d'ambiance musicale originelle, originale. Mais il faut orchestrer tout ça pour que nous, musiciens, on arrive en studio. Il y a la partie de guitare qui est écrite, la partie de la basse, la partie de batterie, les cuivres, les chœurs et tout ce que vous voulez. Donc, un orchestrateur de métier. Donc, il avait besoin de Colombier à ce moment-là.
Colombier Michel, orchestrateur pour des musiques de films composées avec Gainsbourg et notamment arrangeur de la chanson Harley Davidson par Brigitte Bardot. C'est la basse de Francis Daris-Curren qu'on entend dans ce morceau. Il est là dès le début d'ailleurs.
Peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
Comment s'est passé l'enregistrement de ce titre, Harley Davidson?
Oh, c'est toute une histoire. Vous voulez vous marrer?
Je suis prête.
Alors, studio Bagatelle, aux Champs-Élysées, avenue de Washington. On n'était que cinq, hein. Michel Colombier, au clavier. Moi, à la basse. Jiménez et Oliver, aux guitares. Et au sitar. Et moi, à la basse. Bon. Alors, à minuit.
Et il y avait Arpino aussi.
Arpino à la batterie. Bravo. Alors, donc, à minuit, le titre était dans la boîte et nous, sur le pupitre, on voit Harley Davidson. Qu'est-ce que c'est que ce saucisson? Enfin, pour nous, c'était pas du Wagner. Hein.
Comment ça, un saucisson?
C'est un terme entre nous qui veut dire que c'est pas. Oui, bon, on pensait jamais que ce morceau-là, cette chanson, même avec Brigitte Bardot, allait faire le tour du monde pendant 50 ans, quoi. Il était minuit, on s'est dit, on va rentrer chez nous, on va aller se coucher quand même, la journée a été longue. Mais il y avait des escaliers pour descendre au studio et on voit arriver une paire de cuissardes. C'était Brigitte qui sortait du studio, elle avait été prise en photo sur la Harley Davidson, la fameuse couverture du disque, avec la cuissarde, une jupe plus étroite, un peu pas plus, et Gainsbourg, et ils amenaient une caisse de 12 bouteilles de Château Aubryon. Et ils en avaient déjà sifflé deux. Bon, ha ! Alors nous, quand on a vu arriver Brigitte, évidemment, on était moins pressés de rentrer chez nous. Elle arrive, « Oh, les enfants, je suis content de vous voir, tout formidable, bon, très bien. » Bon, puis on commence à boire une bouteille, et puis une deuxième, et puis, bon, on connaissait le morceau par cœur. Hein. Mais elle était tellement sympa que on avait oublié d'aller se coucher, il était 3 heures du matin, on était quand même un peu...
Un peu gris.
Ouais, oula, très gris. Et je ne sais pas pourquoi, je dis dans le casque, je dis à Gainsbourg, Serge, oui, je vais te faire la moto. On avait compris que c'était une moto, quoi. Et Arpino, qui était à côté de moi, avait sa baguette comme ça, il me tape sur le coude, il me dit, arrête tes conneries. Parce que lui, il voulait aller se coucher. Ça faisait une prise de plus, quoi. Bon, alors, j'ai pris, oh, j'ai pas ma basse là.
Vous pouvez aller la chercher, si vous voulez. Autre...
D'accord, j'avais trouvé lui.
Je vous attends.
Voilà. Alors, c'est très simple. J'ai pris une note très grave, c'est-à-dire qu'il y a des notes aiguës et il y a des notes très graves. J'ai pris un fa grave ici. Le médiator aller-retour sur la grosse corde et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Hein. Ça fait du bruit, quoi.
Et par la suite, comment a été trouvée cette note de sitar qui signe la chanson?
Alors lui, il s'est pas cassé la tête. Il a fait toujours la même note, tout le morceau. Alors, ce qui fait que les gens, pour eux, c'est simple. Ça rentre dans le citron, ça rentre dans la mémoire et ça a été très efficace. Il est venu jouer du sitar indien, c'était Jean-Claude Oliver, pour jouer une note répétitive. Ça s'est décidé entre nous comme ça, tout à fait, disons, allez, fraternellement, quoi, voilà. On était là en train de boire un coup, parce que bon, faut que je vous dise. Si Serge annonçait qu'il était en train de faire un disque qui allait sortir dans 15 jours, le lendemain, à la FNAC, il y avait 10 000 commandes. Ça se vendait comme des petits pains, c'était terrible. Alors, il y avait une insouciance qui, maintenant, est peut-être plus espacée. Alors, avec le Covid, je ne vous raconte pas, c'est un désastre. Bon, mais à l'époque, cette insouciance-là, elle se ressentait un petit peu dans la façon des gens qui composaient, dans la façon des exécutants comme nous qui jouions en participant. Il y avait une bonne humeur, il y avait un élan qui faisait que les gens peut-être ressentaient une espèce de... On avait une espèce de spontanéité, voilà.
Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à 100 ans. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent.
Rebecca,
oui.
Bonjour à votre entourage.
Merci beaucoup, Francis.
Bonne chance pour samedi, pour vos auditeurs, parce qu'à l'heure où vous allez diffuser, je serai en train de donner des cours.
D'accord, ça marche.
Vous diffusez à quelle heure ?
11h.
Ben oui, moi c'est de 11h à 13h, oui, d'accord.
Ouais, là,
donc c'est... je ne pourrai pas vous écouter samedi en direct.
Ben, je vous envoie le lien.
Merci.
France Inter.
Merci à vous. Hein.
Pop & Co.
Salut Rebecca.
Rebecca Manzoni.
Salut.
Au moment où paraît Harley Davidson, Serge Gainsbourg part pour Londres pour enregistrer de nouvelles chansons, dont ce morceau, Qui est in, qui est out, qui est un portrait de l'année 65.
Jusqu'à 9, c'est ok, tu es in. Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox. La nitroglycérine, c'est opus, palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars de Liverpool.
Gainsbourg est à Londres pour chercher un son, celui de la pop anglaise, des Beatles, des Kings ou des Stones, qu'on entend partout. Et ce son de guitare que vous entendez là est inspiré par ceci. Et revoici Sébastien Berlet, co-auteur du Gainsbourg.
Je pense qu'on a du mal à visualiser aujourd'hui avec le recul l'avant-garde que ça représente en termes de son. Et Satisfaction, c'est le tube de l'été 65. Et Gainsbourg est à Londres en décembre 65. Finalement, il est à Londres pour rendre compte de ce qui se passe, quoi. Ça, voilà, il veut, en chanson et avec ses mots, parler de ce phénomène. Voilà, comme il dit à l'époque, il y a un phénomène qui est né à Liverpool, on ne peut pas l'ignorer. Voilà, ça fait partie du paysage à ce moment-là.
En partant pour l'Angleterre, Gainsbourg invente donc un son pour la pop en langue française. Il est à Londres avec un arrangeur qui s'appelle Arthur Greenslade. Et là, vous avez reconnu ? C'est la mélodie d'Initials BB, directement tirée du premier mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, que voici. Et quand Greenslade et Gainsbourg se mettent au travail au piano, Greenslade essaie de poser les mots sur cette mélodie. Et puis, Arthur Greenslade ajoute des cordes. Et puis, Serge Gainsbourg essaie un truc pour la première fois. ne plus chanter, mais parler. Extrait de la piste vocale d'Initials BB.
Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le plat... Merde! Comment c'était?
C'était très bon, le premier.
Non, mais il faut que je fasse très bien. Hein? Il faut que ce soit épais.
Vous ne l'avez peut-être pas entendu, alors je répète ce que Gainsbourg vient de se murmurer à lui-même. Il faut que ce soit épatant. Gainsbourg est fou d'amour pour Brigitte Bardot. Initials BB est le poème qu'il lui dédie, une célébration de la femme qu'elle est, en majesté.
Here we come, mate. Two bars. And one, two. One, two, three, four.
Les moments où vous avez entendu Arthur Greenslade et Gainsbourg au travail sont issus d'un film d'Yves Lefebvre, genèse d'une sublime chanson. Vous le trouvez sur YouTube.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Nous sommes heureux d'avoir parmi nous Serge Gainsbourg, qui est une vedette modeste douée de beaucoup de talent.
Serge Gainsbourg, sans qu'il y paraisse dans son attitude, sans peut-être même qu'il le sache, fait figure de chef de file.
Et il arrive souvent qu'à Discorama, des chanteurs très en vue nous disent que leur maître, c'est Serge Gainsbourg.
N'est-ce pas la marque même du vrai talent que d'être pris pour modèle? Qu'en pensez-vous, Serge Gainsbourg?
C'est une question très embarrassante.
France Inter.
Je préfère ne pas y répondre.
Pop & Co. Rebecca Manzoni.
Aujourd'hui, Pop & Co et donc Pop & Gainsbourg. En 1967, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot enregistrent « Je t'aime moi non plus », comme le mari de bébé va voir rouge et devenir vert, elle demande à Gainsbourg de ne pas sortir la chanson. Et il s'exécute la mort dans l'âme. Et puis il la réenregistre avec son nouvel amour, Jane Birkin. Je vous ai raconté cette histoire dans le détail pour un précédent épisode de Pop & Co, dédié à la grandeur des slows. « Je t'aime moi non plus » sort en 69, et c'est LE scandale. Le Vatican censure la chose, la reine de Hollande s'en mêle parce qu'elle a des parts chez Philips, elle exige qu'on cesse la fabrication du disque, et tout ça amplifie encore le succès de la chanson. Le morceau va devenir un jalon dans l'histoire de la pop. 6 millions de disques vendus dans le monde, des versions en anglais, en espagnol, en japonais. « Je t'aime moi non plus » sera le premier titre en français, numéro 1, en Angleterre. Et Gainsbourg va y retourner en Angleterre pour enregistrer une partie de l'album Histoire de Melody Nelson.
Melody Nelson a les cheveux rouges, c'est leur couleur naturelle. Les ailes de la Rolls effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé.
Serge Gainsbourg conçoit Histoire de Melody Nelson avec Jean-Claude Vanier, qui compose plusieurs chansons et orchestre tout l'album. Vanier, au micro de Pierre Achard, pour le musée de la SACEM.
Serge me dit, j'ai l'idée d'un album. Je dis, très bien. Je dis, et ça va s'appeler Melody Nelson. Ben, je dis, c'est parfait. Et ensuite, il dit, ben voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. J'ai le titre. Bon. Il me dit, est-ce que vous avez quelque chose dans vos tiroirs? Et à l'époque, je me souviens très bien que j'entendais pas très bien ce qu'il disait. Et je croyais qu'il m'avait dit « Est-ce que vous avez quelque chose de méritoire ?» Alors bon. Et puis j'avais des mélodies que je lui ai soumises. Et puis on a enregistré ça à la va-vite, vraiment à toute blinde, à Londres. Et puis ensuite, Serge n'avait toujours pas d'idée. Alors Melody Nelson, on savait pas qui c'était. C'était une vieille dame, une grand-mère, une bourgeoise, une prostituée, une petite fille, on ne sait pas.
Finalement, Melody Nelson sera une petite fille de 14 automnes et 15 étés. Aujourd'hui, certains estiment que l'album fait l'apologie du détournement de mineurs. Or, Melody Nelson est un conte, inspiré de Lolita, roman de Vladimir Nabokov, où le personnage d'Humbert Humbert, épris de Lolita, est peint comme un minable. Dans la réalité, Melody Nelson est une jeune femme de 25 ans. Elle s'appelle Jane Birkin. Je citerai enfin Chloé Thibault qui vient de signer un essai intitulé « En relisant Gainsbourg ». Dans le hors-série Gainsbourg des Inrecuptibles, Chloé Thibault précise « Gainsbourg a provoqué selon les codes de l'époque dans laquelle il était. » Et la provocation faisait partie de son processus créatif.
Merde. J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre.
Musicalement, Melody Nelson ne s'inspire de rien d'existant. Dans le Gainsbourg, Jean-Claude Vanier explique « Quand on écrit de la musique, tout marche à la surprise. C'est de la surprise que naît la beauté. Sur ce morceau, les cordes ne viennent qu'après 3 minutes. Cette entrée tardive donne soudain une impression d'espace grâce au spectaculaire panoramique de la prise de son. » Sébastien Merlet.
Melody Nelson, c'est sur le plan vocal chez Gainsbourg, c'est l'aboutissement d'un phénomène qui trouve ses racines dès le milieu des années 60, quand Gainsbourg s'est rendu compte que pour donner du poids à certains mots, il valait mieux les dire que les chanter. sachant qu'après, c'est un mode déclamatoire qui ne va plus lâcher jusqu'à la fin, à part les chanter, dans lequel il développe une technique de micro vraiment spectaculaire. Je pense que sur plein de points, on est encore sur cet héritage-là aujourd'hui. Ça se passe plus sur les labiales, ça se passe plus sur les petits bruits de bouche, sur le souffle, que sur le chant à proprement parler. Bah, il bouffe le micro, quoi, littéralement. Il est tellement près du micro. Et Gainsbourg avait une façon de travailler en studio devant le micro, où il était très près du micro, mais quand il envoyait des sifflantes, il s'éloignait. Non, mais voilà, quoi, c'est une vraie technique, quoi. C'est pas un mec qui parle devant un micro sans se soucier de rien. Il faut connaître les micros, il faut savoir ce qu'on peut en attendre.
Et pour Melody Nelson, il a fini par enregistrer torse nu.
Absolument, ouais. Jean-Claude Charvet, l'ingénieur du son, était obligé d'ouvrir les micros à fond pour avoir toutes les labiales de Gainsbourg, tout son souffle. Et il entendait, dès que Gainsbourg levait les bras pour faire un signe à Jane Birkin, il entendait sa chemise se froisser dans le micro. Et ils ont fini la séance, effectivement, il a fini la séance torse nu pour pouvoir enregistrer sans qu'on ait de bruit parasite.
À sa sortie, en 1971, Histoire de Melody Nelson fait un flop. Pourtant, Jean-Claude Vanier et Gainsbourg pensaient faire un carton.
Je me souviens, on attendait beaucoup. Et Serge, qui était un peu, il ne se rendait pas bien compte, peut-être, il me disait, tu vois, ce qui serait génial, c'est qu'on ait des covers, que nos chansons soient reprises par des gens, et je voudrais que Richard Anthony chante la ballade de Melody Nelson. Alors ça m'avait frappé. Moi, j'ai dit, mais pourquoi Richard Anthony? Ça me paraissait totalement antinomique. Mais lui, il tenait absolument à ce que Richard Anthony la chante. Il ne l'a jamais chantée, et d'ailleurs, personne n'a jamais entendu parler de cette chanson, sauf 10 ans après, où il a commencé à parler de Melody Nelson. C'est vrai qu'on était déçus, donc... Puis on est passé à autre chose.
Mais Melody Nelson a inventé une signature sonore, une orchestration qui mélange épure pop et symphonie, une balise dans l'histoire de la musique mondiale.
Ça, c'est l'histoire de...
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même... Personne n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés.
Cette heure dédiée à Gainsbourg, j'ai plongé dans un livre fantastique qui s'intitule « Le Gainsbook en studio avec Serge Gainsbourg », ouvrage dirigé par Sébastien Merlet que vous avez entendu dans cette émission et que je remercie au passage. « Le Gainsbook » apparu chez Segers. Le spectacle « La comédie française » chante Serge Gainsbourg, adapté et mis en scène par Sébastien Poudreau et Stéphane Varupen, est en replay sur le site de France 3. Le film est de Julien Courdemine. Je vous signale aussi la sortie d'un maxi 45 tours inédit, donc un vinyle. Serge Gainsbourg à la maison de la radio, c'est le titre. C'est conçu par Lina et Diggers Factory. Et enfin, c'est comme si Pop and Gainsbourg se déroulait en deux parties, puisque la suite, ce sera mardi à 21h, avec une rencontre et un concert d'Alex Baupin, qui reprend l'album Love on the Beat avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Koyen Guyen a réalisé cette émission avec Ronan Mahé ce matin. Ilinka Negulesco et Stéphanie Valois ont trouvé les sons et la doc. comme toutes les semaines, JB Audibert contribue à la programmation musicale. Et la semaine prochaine, je vous parle d'ABBA et d'une chanson du groupe Feu Chatterton.